Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un lieu fait pour la vie commune, la vie en collectivité. Sauf que c'était une prison. Prison parisienne, célèbre et aujourd'hui démolie. Célèbre parce que des personnalités connues y étaient passées ou y avaient moisi quelques semaines, dont Léo Mallet, Jean Genet, pour ne parler que du XXe siècle. Seule la rue de la Roquette à Paris rappelle, et encore, qu'il y eut, il n'y a pas si longtemps, une prison. Deux prisons, la petite et la grande Roquette. On y avait guillotiné dans la rue à l'entrée de ces prisons, assez longtemps. Nous lisons des articles, nous découvrons des archives radiophoniques qui nous apprennent que tel édifice était naguère menacé par les démolisseurs. Et nous savons, parce que nous l'avons vu, qu'il a été sauvé, cet édifice. Mais dans le cas de la prison de la Petite Roquette, c'est simple, rien ne subsiste. Et quelle idée aussi de vouloir conserver un lieu, certes marquant pour l'histoire de Paris, mais tout de même lié à l'enfermement. Pas si simple. Ainsi que le prouvait le reportage qui suit, signé Paul Ajac, diffusé dans les après-midi de France Culture, le 4 mars 1974, présenté par Jacques Pogam.
La prison de la Roquette a été désaffectée il y a maintenant un an. Vous savez que c'est une des prisons les plus célèbres de France, j'allais dire les plus sinistrement célèbres de France, et qui était réservée aux femmes. On l'a désaffectée parce que son état était véritablement lamentable. Paul Ajac, va-t-on la détruire?
C'est la question qu'on se pose. Alors vendredi 1er mars, vers 2h de l'après-midi, une trentaine de personnes environ dans la cour de la Roquette tapaient du pied parce qu'il pleuvait, il neigeait, en attendant qu'on veuille bien leur ouvrir la porte. Il s'agissait de gens qui venaient protester contre la démolition de cette prison. Ils étaient conduits par un professeur des Beaux-Arts, Michel Verne. Alors voici la scène telle qu'elle s'est passée.
Nous sommes avec un conseiller municipal, comme je crois que le bâtiment appartient...
Oui, mais enfin, si vous avez une autorisation, je veux bien.
Alors faut-il l'obtenir de la préfecture même?
Attendez. Je vous raconte pas l'histoire.
Non, écoutez-moi, il me faut une autorisation. Moi, je vais...
Alors, on peut pas entrer?
Qui faut-il demander?
Alors, je crois que le mieux, ce serait que j'appelle SAR maintenant. J'ai demandé de faire une démarche auprès du préfet pour qu'il donne un coup de téléphone.
Je le fais tout de suite, moi.
Oui, tu le fais tout de suite? Il m'a dit qu'il fallait l'autorisation de l'architecte de la préfecture. C'est-à-dire qu'en fait, l'architecte de la préfecture va surveiller la démolition. Alors, si vous passez en quelques instants...
Qu'est-ce que nous faisons là?
Bien, c'est assez simple. Nous avons étudié avec des étudiants et des enseignants de l'école des Beaux-Arts ce quartier de Paris, le Faubourg Saint-Antoine et ses abords, et nous nous sommes inquiétés de son patrimoine. Et en particulier, il y avait parmi les monuments qui nous ont paru intéressants, cette prison.
La prison de la Roquette?
La prison de la Petite Roquette. La prison de la Petite Roquette qui appartenait à un ensemble qui a partiellement disparu, puisque la Grande Roquette qui était de l'autre côté de la rue de la Roquette a été démolie au début du siècle.
Et on veut la démolir?
Non seulement on veut la démolir, mais la décision a été prise de la démolir par les conseils municipaux. Il semble qu'il y ait une certaine confusion, en tout cas une certaine légèreté dans la décision.
Oui.
Et nous sommes placés devant, en quelque sorte, le fait accompli. Enfin,
oui. Alors vous espérez, en organisant ces visites, faire changer la décision?
Nous espérons faire changer la décision. Nous avons organisé déjà une dizaine de visites et nous avons rallié pas mal de gens autour de cette... de cette thèse, si vous voulez.
Des étudiants, conserver des architectes.
Des architectes, des philosophes. Enfin, je peux vous donner un certain nombre de gens, oui. De noms de personnes. Ça va de M. Guillaume Gillet, qui est architecte de la prison de Fleury-Mérogis,
oui.
Jusqu'à M. Claude Parent, qui est architecte. de Monsieur Pierre Manuel à Monsieur Roland Barthes, de Monsieur Michel Foucault à Monsieur Foucard qui est historien de l'architecture. Vous voyez, ça, nous avons même des Italiens et des Américains qui nous soutiendraient le cas échéant.
Oui.
Et de toute façon, nous avons l'intention de publier un certain nombre d'articles qui informeront le public sur cette prison et sur l'intérêt de cette prison.
Est-ce qu'elle est désaffectée depuis longtemps ?
Elle est désaffectée depuis un an. C'est pas en tant que tel qui nous intéresse, bien sûr, mais c'est le fait que cette prison, si vous voulez, est une prison qu'on dit panoptique, qui s'inspire d'une prison américaine du même type, et c'est vraisemblablement la plus ancienne prison panoptique qui existe actuellement.
Panoptique.
Panoptique. C'est-à-dire une prison dont le plan répond au souci d'une surveillance maximum et qui est conçue comme une espèce de vaste hexagone relié par à une tour centrale par des branches concentriques. Vous voyez.
Et on retrouve la même aux États-Unis ?
On l'a même à Philadelphie, qui est très célèbre.
Pourquoi vous tenez tellement à la sauver, cette prison ?
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce quartier est promis à la rénovation dans un proche avenir. Et que nous pensons que le phénomène général de la désurbanisation, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi la banlieusardisation, c'est-à-dire la construction pure et simple de logements dans des quartiers où il y avait des activités très diverses, et des témoignages de différentes époques, si vous voulez, cette reconstruction massive de logements risque de dévitaliser complètement ce quartier. Et nous pensons qu'un élément comme celui-là est un élément attractif.
Une prison est un élément attractif, c'est un peu paradoxal.
C'est un peu paradoxal, notre projet est de l'ouvrir précisément. Ouais. Le projet de la plupart des architectes qui vont travailler sur cette prison, c'est de l'ouvrir. Mais étant bien entendu qu'elle est attractive dans un sens très précis, c'est-à-dire que c'est un lieu fermé à une époque où tous les logements, où tous les immeubles sont ouverts, vous comprenez ? C'est un lieu fermé et c'est un lieu qui repose, si vous voulez, sur un système de relations extraordinairement complexe et riche, comme vous le verrez tout à l'heure. C'est un lieu conçu pour une collectivité, au même titre qu'un établissement conventuel ou qu'un hôpital. Ou qu'une caserne. Et c'est une chose qui disparaît, qui a tendance à disparaître, puisque l'isolement aujourd'hui est un isolement d'un tout autre type.
Et ceux qui veulent la détruire ont quels arguments ?
Ils n'ont pas d'arguments. Le seul argument, c'est que bon, c'est un lieu maudit, c'est une prison, et que personne ne s'y intéressera. De fait, c'est une prison, c'est-à-dire qu'elle est doublement fermée. Elle jouit d'une très mauvaise réputation en tant qu'abritant l'institution qu'on appelle la prison, et aussi parce qu'on n'y entre pas facilement. Il s'est avéré que très peu de gens connaissaient cette prison. On connaissait ses plans, certaines graveuses anciennes qui représentaient les détenus à l'intérieur de la prison, mais personne n'avait une idée très précise de ce qu'était cette prison.
Oui.
Vous voyez ?
Oui. C'est le problème. Moi, je ne l'ai pas visitée, mais on m'a dit qu'elle était en très mauvais état, vieille, sale, délabrée, les murs sont
atteints. C'est évidemment une contre-vérité, parce qu'elle est effectivement en très bon état. Non, elle n'est pas propre, bien entendu. Simplement, il faut apporter quelques améliorations, et je signalais justement que le chauffage central était sur le point d'être installé au moment où les prisonniers ont quitté cette prison. Alors, c'était bien donc que cette prison était habitable. Du reste, les gens qui connaissent Fleury-Mérogis et les prisonnières de Fleury-Mérogis savent qu'une grande partie d'entre elles regrettent cette prison, dans la mesure où là, l'isolement était relatif par rapport à ce qu'il est à Fleury-Mérogis. Si le confort, objectivement, est meilleur à Fleury-Mérogis, en revanche, ici, si vous voulez, il y avait...
Oui, mais ça, ce n'est pas un argument, de toute façon, parce qu'on ne t'en servira plus jamais comme prison.
Ce n'est pas un argument, mais si on considère l'histoire de l'architecture des prisons, celle-là apparaît vraiment comme une prison modèle, et à peine en fait comme une prison. Ce n'était pas une prison au départ, c'était une maison de correction pour enfants de 6 à 16 ans. Et de toute évidence, c'est une prison modèle.
Qu'est-ce qui vous fait venir ici pour visiter cette prison ?
C'est que j'habite pas loin, je suis au Beaux-Arts, et puis j'en ai entendu parler, oui. Ça m'intéresse.
Pourquoi ? Parce qu'elle a beaucoup de cachets, elle a un certain style, et je trouve que c'est très dommage qu'elle soit démolie. Pareil qu'il y a un projet qui doit la faire démolir, et si on doit faire une pétition, je m'inscris contre la démolition de la petite roquette.
Écoutez, moi, je serais pas là si ça m'intéressait pas, c'est tout. Je suis là pour visiter.
Excusez-moi si ça a été long, mais 2h30, c'est un peu tôt pour des cabinets préfectoraux, et il a fallu arriver à joindre le directeur de l'architecture, qui, ma foi, est un peu inquiet à l'idée qu'il y ait des gens qui aient visité comme ça plusieurs fois déjà cette prison, et qui a fini par me dire « Bon, bah écoutez, puisque vous me le demandez, je trouve personne au cabinet pour me donner une réponse. Je prends ma voiture, dans un quart d'heure, je suis là-bas et je vous ferai visiter. Je visiterai avec vous. » Voilà.
Parfait.
Voilà, Michel Verne, j'en étais resté là. On devait vous faire visiter cette prison le vendredi. Alors finalement, avez-vous visité ?
Eh bien, oui, nous l'avons visité avec le groupe de gens que vous avez interrogés, avec M. Molinet et avec les architectes de la préfecture.
Est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire cette prison ? Vous avez parlé d'architecture panoptique. Je suppose que ça ressemble un petit peu à la maison de la radio, c'est ça ?
C'est une architecture effectivement apparentée à celle de la maison de la radio par sa régularité. La différence c'est que est hexagonale alors que le plan de la maison de la radio, lui, est circulaire. Mais le principe est le même. Vous avez une tour centrale et puis vous avez un bâtiment qui enveloppe cette tour centrale.
Bernard Huette, vous êtes rédacteur en chef de la revue Architecture d'aujourd'hui. Vous tenez beaucoup à cette prison. Pour vous, c'est un fleuron de l'architecture française ?
Pour moi, oui. C'est un des bâtiments les plus importants de la première partie du 19e siècle. Et c'est même un bâtiment, à mon avis, capital dans le développement de l'architecture contemporaine et la fin de l'architecture néoclassique.
Vous voulez dire qu'on peut y prendre des idées encore aujourd'hui ?
Actuellement, certainement. C'est un établissement qui avait été programmé extrêmement rationnellement. Il y a une séparation très stricte des fonctions. À mon avis, ce n'est pas le premier établissement de ce type, mais c'est le plus abouti, le plus achevé. Ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il y a un emploi très judicieux de tous les matériaux qui étaient disponibles à cette époque-là. Il y a notamment des passerelles qui sont métalliques, qui sont en fonte et qui sont parmi les plus belles, les plus intéressantes que l'on ait de cette époque.
Alors à vous entendre et puis entendre ce que vous dites, Michel Verne, c'est-à-dire un monument extraordinaire qui va disparaître, on se pose des questions, on se dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi décide-t-on de la disparition d'un tel monument ? Est-ce qu'il s'agit d'une légèreté, de l'indifférence ou bien d'une recherche d'un certain profit ? Est-ce qu'on a besoin de ce terrain pour le 11e arrondissement ?
Il faut dire qu'il était dans un état de vétusté assez extraordinaire.
Non, alors d'abord, elle n'était pas du tout dans un état de vétusté extraordinaire, elle est même dans un état qui a fait notre étonnement, c'est-à-dire un bon état. Et c'est assez compréhensible.
Que les avocats ne partagent pas tellement votre point de vue.
Ah oui, non, mais ils font sans doute allusion à la propreté même des locaux. Mais nous parlons en termes d'architecture. Et le bâtiment était très solide. Il était, disons, sain. Donc parfaitement
récupérable. Oui, d'ailleurs, il n'a pas beaucoup plus qu'un siècle, en fin de compte.
Il a plus d'un siècle, puisqu'il date, il a été construit entre 1826 et 1832.
Oui.
À la vérité, si ce n'est pas le premier établissement pénitentiaire, c'est le premier panopticum français. Autant que je sache. Ce que je sais par ailleurs, c'est que cette prison apparaissait au XIXe siècle comme une prison modèle, c'est-à-dire qu'en la circonstance, le ministère de l'Intérieur, puisque c'était le ministère de tutelle des prisons à cette époque, n'est-ce pas, avait fait les choses admirablement, c'est-à-dire qu'il voulait défendre, si vous voulez, ce système pénitentiaire qu'on venait d'introduire en France, et ils avaient construit là une maison de force parfaite,
oui.
Fois en ce qui concerne la conception et en ce qui concerne la construction.
Oui, écoutez, nous sommes tout à fait... nous vous croyons tout à fait en spécialiste que vous êtes. Et alors, moi, je vous pose la question, qui est-ce qui décide la démolition de cette prison ? Elle appartient à qui, cette prison ?
Alors, cette prison appartenait jusqu'au 31 décembre dernier au ministère de la Justice. Et à cette date, elle est passée dans le domaine de la ville de Paris.
Et c'est la ville de Paris qui a pris la décision de la faire détruire.
En vérité, c'est le conseil municipal. C'est la seule instance habilitée à prendre une pareille décision qui a décidé de construire sur le terrain de cette prison un certain nombre de logements et d'équipements.
De logements sociaux.
De logements sociaux, ça c'est à débattre entre les conseillers. Il y aura certainement une partie des logements qui seront sociaux, une partie qui le seront moins.
Est-ce que vous connaissez un peu la réaction des gens du quartier quand on leur pose le problème, c'est-à-dire conserver la prison ou avoir des logements sociaux, qu'est-ce qu'ils répondent ?
On va dire, la question ne se pose pas exactement de cette manière. Ce que j'aurais voulu, moi, c'est que les gens du quartier aient la possibilité de pénétrer dans la prison afin de se rendre compte par eux-mêmes s'il fallait ou non détruire la prison. J'ai réussi, vous le savez, à introduire quelques habitants du quartier, une trentaine environ, ce qui d'ailleurs m'a valu disons, des reproches de la préfecture. L'autorisation qui m'était accordée était accordée à titre personnel.
Et pour les architectes ou des étudiants aux Beaux-Arts ?
Pour les architectes, les étudiants aux Beaux-Arts et les enseignants.
Oui.
Eh bien, il est évident que les réactions, et c'est dommage que vous n'ayez pas pu les enregistrer, étaient évidemment tout à fait différentes de celles qu'on peut attendre de gens auxquels on a seriné pendant des dizaines d'années, que c'était un lieu maudit, disons, un espèce d'enfer. Il est évident que lorsqu'on découvre cette prison, son caractère monumental, la beauté de son architecture, on est tout à fait surpris. D'autant que l'architecture intérieure de cette prison ne correspond absolument pas à l'aspect extérieur à la vision extérieure qu'en ont les habitants du quartier.
Alors en fait, tout dépend de la destination de cette prison. Qu'est-ce que vous voudriez en faire si elle n'était pas démolie ?
Eh bien, à vrai dire, ce que je voudrais en faire moi personnellement, c'est une chose. Ce que les élus du quartier, ce que les élus de Paris et les habitants voudraient en faire, c'est autre chose. Naturellement, moi, nous avons tout de suite pensé à une maison commune, car c'est une architecture qui est conçue pour la vie collective, pour une vie commune. C'est d'ailleurs une remarquable organisation architecturale de ce point de vue-là. Elle favorise les relations de toutes les manières possibles.
Est-ce que vous avez bon espoir de la sauver, cette prison ?
Oui, enfin, je vous répondrai qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, etc., etc.
C'était un extrait des Après-midi de France Culture présenté par Jacques Pogam le 4 mars 1974 avec Michel Verne, professeur aux Beaux-Arts, directeur du comité contre la démolition de la prison de la Petite Roquette au micro de Paul Ajac. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».